Albert Bataille, Irlande, le polygame. Paris, le 28 mars 1889. Le jury de la Seine est appelé à juger demain une véritable cause de mi-carême. L'accusé, un homme de 55 ans, ancien officier nommé Irlande, est atteint non de bigamie mais de trigamie. Condamné à 20 ans de travaux forcés par contumace pour avoir passé la frontière en emportant une grenouille de 80 francs, Irlande a épousé en 1855 à Birmingham une première femme, Adèle Postal, avec laquelle il devait mener l'existence la plus aventureuse. On le trouve successivement professeur de français, photographe, représentant d'importantes maisons de Paris, marchand de beurre, miniaturiste. Dans certaines années, il réalisa des bénéfices considérables, plus de 100 000 francs, mais il vivait sans faire d'économie. De ce premier mariage, Irlande eut 5 enfants, dont 4 sont encore vivants. La brouille se fit à la longue dans son ménage. Sa femme l'accusait d'avoir des maîtresses, et il l'accusait d'avoir des amants. En 1874, les deux époux signèrent une sorte de séparation en s'accordant une liberté réciproque. Et depuis lors, ils ne se revirent plus. Irlande passa en Amérique, où il inventa, en 1880, un nouveau procédé de photographie sur verre qui eut quelques succès. Croyant sa condamnation militaire et son aventure conjugale également oubliée, il revint se fixer à Paris et bien accueilli dans une société bourgeoise qui ignorait son passé, et il fut présenté à une dame, Brizot, veuve élégante et d'excellente famille, qui habitait, avec ses deux enfants, un petit hôtel de l'avenue du Puy de Bois de Boulogne. Et il fut agréé comme mari. Le mariage fut célébré le 7 septembre 1882, à Saint-Honoré-des-Laux. Irlande avait eu soin, pour cacher son précédent mariage, de se confectionner un faux acte d'état civil, modifiant seulement l'orthographe de son nom, nom de famille, et se déclarant né à Bray, en Irlande, tandis qu'il était né à Charleville. Les nouveaux époux menèrent une vie assez dispendieuse, avec hôtel à Paris, chevaux et voitures. Ils louèrent à Saint-Cloud au prix de 15 000 francs par sa saison une ancienne villa de Marguerite Elzéger et un enfant naquit de cette union, le petit Charles, âgé aujourd'hui de 6 ans. Cependant, Irlande n'avait pas réussi dans ses interventions industrielles. Il fit des dettes et on révéla sa malheureuse femme, révéla tous ses antécédents. En mai 84, le bigame fut dénoncé à la police. Mais l'inspecteur chargé de recueillir les renseignements sur son compte se trompa d'étage. Et prenant pour un autre habitant de la maison, il lui proposa à lui-même de nombreuses questions en lui annonçant que le nommé Irlande serait arrêté le lendemain. Inutile de dire que le lendemain, lorsque les agents se présentèrent pour s'assurer de sa personne, il était parti sans laisser d'adresse. Il se réfugia en Amérique, où il donna des leçons de français et dessina des miniatures. La justice française le condamna à 10 ans de travaux forcés par contumace, comme bigame, et Madame Irlande, numéro 2, obtint du tribunal civil l'annulation de son mariage. L'aventurier ne devait pas tarder à contracter à New York une troisième union avec une demoiselle Nelly Ferroyer qui avait travaillé dans son atelier de miniaturiste. Il avait consulté, dit-il, un des premiers avocats de cette ville qui lui avait délivré une consultation en bonne forme, au terme de laquelle rien ne s'opposait à son mariage, puisque l'article 295 du Code civil de New York permet au mari qui n'a plus entendu parler de sa femme depuis 5 ans d'en prendre une autre. Irlande n'avait jamais considéré son premier mariage comme valable, et le second était annulé. Il se regardait comme absolument libre, et telle était sa sécurité qu'il reparaissait l'an passé en France, où il a été cette fois arrêté et où il va, après tant d'aventures, régler ses comptes avec la justice. Maître Jules Lemier présentera la défense de ce collectionneur de femmes. Des 3 épouses plus ou moins légitimes d'Irlande, la première, celle de Birmingham, a disparu. La seconde, dont l'union a été annulée, ne le poursuit point d'une haine farouche. Quant à l'américaine Nelly Pernoyer, elle s'est réfugiée en Angleterre, d'où elle lui envoie, paraît-il, les lettres les plus tendres assurant de tout son amour. Irlande est un homme de 57 ans, très correct, à barbe blanche, en éventail, d'une respectueuse respectabilité, d'une roideur toute anglaise, et on sait qu'il y a passé de longues années de l'autre côté du détroit. Il paraît très sourd, et M. le Président Dupont est forcé de le faire descendre du banc des accusés. Debout, devant le bureau de la cour, Irlande répond à peine, par monosyllabes, en cherchant ses mots, comme un homme qui a oublié sa langue natale au milieu de ses pérégrinations de globe-trotteur. Monsieur le Président lui rappelle ses 3 mariages. En 1855, après avoir passé la frontière à la suite d'un vol commis au régiment, Irlande a épousé, devant un prêtre catholique de Birmingham, Mademoiselle Adèle Portal, qui lui a donné 4 enfants. En 1882, après avoir quitté l'Angleterre et signé de concert avec sa première femme une note de séparation dans laquelle les 2 époux, tout en déclarant qu'ils en avaient assez l'un de l'autre, s'assuraient courtoisement de leur mutuelle affection, Irlande a convolé à Paris avec une riche veuve, Madame Brissot, qui avait 80 000 livres de rente, hôtel au bois de Boulogne, équipage et villa à Saint-Cloud. Un enfant est né de cette seconde union. Enfin, au mois d'avril 1888, après avoir fuit en Amérique sous le coup d'une arrestation imminente pour bigamie et pour faux, Irlande a contracté une 3e union avec une jeune fille de New York, mademoiselle Nelly Mordoyer, peintre miniaturiste comme lui. Yolande répond qu'il n'a jamais considéré son premier mariage comme une union valable, et ce, pour cause de clandestinité, d'absence de publication et défaut de consentement paternel, et que le second, celui de Paris, a été annulé en 1884. Et qui s'est regardé, dès lors, comme parfaitement libre d'en contracter un troisième en Amérique. Monsieur le Président établit ensuite la situation juridique de l'accusé. Irlande a été condamné en 1885 par contumace à 20 ans de travaux forcés par le Conseil de guerre pour le vol commis au régiment. Mais cette peine est couverte par la prescription. Il a été condamné également par contumace à 6 ans de travaux forcés par la cour d'assises de la Seine pour bigamie. Mais cette condamnation tombe aujourd'hui, que l'accusé vient rendre ses comptes à la justice. Des 3 femmes de ce pacha d'Occident, une seule était citée à l'audience. Adèle Bortal, la première, en date, a disparu depuis longtemps. Et Nelly Pennoyer, la troisième, l'attend à Bray Brighton, d'où elle lui écrit à jubiler des lettres débordantes de protestations d'amour pour le Loveless à cheveux gris, auquel s'attache une si persistante séduction. La seconde seulement, Madame Rivaud, a été entendue discrètement par la cour d'assises. C'est une personne fort élégante et du meilleur monde. Une brune au teint mat avec des cheveux annelés, encore fort jolie et à laquelle on ne saurait donner sans injustice ses 42 ans. Elle déclare qu'elle a été absolument trompée, qu'Irlande lui a laissé ignorer son premier mariage, mais qu'elle en a eu à se plaindre. Et au cours de cette union malheureuse, et aujourd'hui, disait-elle, ni de son désintéressement, Irlande a voulu se marier que sous le régime de la séparation de biens, et il a laissé la fortune de Madame Feuve-Briseau. Ni de ses procédés, ni de son caractère, il était lien très prévenant, il aimait beaucoup les enfants, et il rentrait à 10 heures du soir. Monsieur John Arthur, l'intermédiaire bien connu, donne connaissance de quelques renseignements sur Irlande avec lequel il a été en relation. J'ai dit que l'aventurier exerçait avec des fonctions diverses des professions aussi disparates en Belgique, en Angleterre et aux États-Unis. Monsieur l'avocat général, Croupy, requiert une peine modérée. Maître Julemier, dans une plaidoirie des plus émouvantes, montre son client sous la physionomie d'une sorte de Jean Valjean, victime d'une première faute et d'une condamnation de jeunesse qui a pesé sur toute sa vie. À 20 ans, au régiment, Irlande a commis un larcin de 80 francs dans la caisse de son sergent-major. Son frère, mort colonel, l'a forcé à quitter la France, de disparaître pour épargner une honte à la famille. Elle n'étant peut-être pas agi plus humainement, plus sagement aussi, en lui faisant infliger une punition militaire, en le faisant cassé de son grade de sergent fourrier. Ils ont fait pour lui, frappé de 20 ans de travaux forcés, le proscrit errait à travers le monde. Et quand il a épousé Madame Veuve Boyau, en la trompant sur son passé, ce n'était pas son précédent mariage qu'il voulait lui coucher, cacher. C'était la sentence terrible qu'il avait frappée. Maître Jules Mier supplie le jury d'acquitter un homme qui a contracté de bonne foi tous les mariages qu'on lui reproche. Les victimes même de ces trois unions le protègent devant le jury. L'honorable avocat donne lecture des lettres attendrissantes émanées de la troisième femme et des enfants du premier lit. Quant à la seconde, Madame Brigeot, ce n'est pas celle qui demande, loin de là, qu'un commentaire et qu'une commandation viennent fléchir le nom du père de son enfant. Et Monsieur l'avocat Goupil, dans une spirituelle réplique, raille ce donjon d'un nouveau genre qui se présente entouré de Zerbine, de Donna Anna et d'Elvire, et protégé par toutes ses victimes au moment où va paraître la statue du commandeur. Le jury, qui n'est jamais tendre pour les bigames, rapporte, après quelques minutes de délibération, un verdict de culpabilité. Irlande obtient toutefois les circonstances atténuantes. La cour le condamne à 3 ans de prison, à la joie d'une foule de belles dames qui ont suivi les débats et qui, en cette manière, se montrent particulièrement impitoyables. Schopenhauer a dit, écrit quelque part, l'honneur des femmes possède un esprit de corps, bien entendu.